Tous connectés, une interview, Albert Agnel. Et Melvin, ça vient de où? Comment est-ce que vous avez choisi?
Non, mais là, c'est... Non, on cherche un nom facile, quoi. Anglo-saxon. Parce qu'au début, quand on a commencé, c'était l'époque Fruit of the Loom. Beaucoup de jean stores. Donc il fallait un nom ni français, ni flamand. Donc on a pris Monroe. C'était la première fois, c'était Melvin, le premier nom. Et puis on a pris Monroe pour la marque. On voulait trouver un nom, disons, accrocheur pour les jean stores, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était la folie du jeans. C'était... Tout le monde ouvrait des jean stores. On avait des clients qui avaient dans des fermes, dans des caves. On a eu tout. Ça poussait comme des champignons, quoi. Une femme qui n'avait rien à faire, son mari ouvrait la porte de sa maison. Il faisait un jean store dans des garages. Mais ça se vendait comme des petits pains. On ne vendait pas de jeans, je dis bien. Nous, on vendait des compléments. Et même Lévis envoyait des clients chez nous. Parce qu'en chemise, c'était. On dominait le marché. Et puis après, on a développé. Une fois qu'on a rentré dedans, on a développé ça. Bon, alors ce qu'on a eu aussi comme coup de chance, avant qu'on ait Monroe, on était au salon de Paris, on était avec ma femme, et on se promène, et on voit un tout petit t-shirt, mais vraiment très simple. Ma femme dit, ça c'est fabuleux. Je demande aux gens, ça venait des Indes, ça s'appelait un kangourou. C'est vraiment un tout petit bazar en coton, très simple et très mignon qu'une poche sur le ventre. Elle me dit, oui, on vend pas en Belgique, mais vous devez acheter 2-3 000 pièces. Bon, ça faisait beaucoup, c'était pas très cher. On se dit, on va prendre de risques. Alors là, c'était aussi, ça a été un peu notre chance. On a reçu ces pièces, ça fait une folie. Et avec l'argent qu'on a, parce qu'on en a racheté beaucoup. Alors là, ça a été, pendant quelques années, c'était le produit de base l'été, hein, que l'été. Ça nous a financé pas mal pour le développement de la firme. Donc là, au niveau des collections, on a commencé à ouvrir nos points de vente. Donc on a ouvert d'abord un magasin à nous, puis des franchises, puis on a été à l'innovation. Et quand on a fini, on avait des points de vente dans Kaufhof en Allemagne. On avait le produit qui plaisait. Je pense que quand on était à cet âge-là, on s'identifiait au produit. Donc c'est un produit qu'on portait, qu'on sentait. Donc c'est une très grande facilité. Hein. Donc on sentait le produit, voilà. On disait c'est ce qu'il faut. Au début, on a lancé sans savoir, parce qu'il fallait évidemment. Et puis une fois qu'on a l'expérience, c'est comme dans tous les métiers. Hein. On sait un peu qu'est-ce qui va marcher, les couleurs qui vont marcher. Puis on avait autour de nous... comme tout le monde, une équipe, des conseillers. Et puis même quand on va chez les fournisseurs, les grandes tendances, on les connaît. Voilà. Donc ça, c'est une question de feeling, c'est tout. C'est comme dans tous les domaines, dans la mode, que ce soit dans l'habitation, dans les films, dans la musique, il y a des tendances. Mais si vous êtes dedans et que vous avez le bon produit, avec le bon prix, ça doit partir tout seul.
Ça
doit. C'est pas toujours le cas, mais ça doit.
Au début, je voulais... C'est drôle, quand j'ai démarré donc avec tous les produits, j'ai toujours voulu rester avec des fabricants belges. Si je me rappelle, j'avais à peu près 25 ou 26 ateliers en Belgique, et surtout en Flandre. Et ce qui, malheureusement, ils ont commencé à disparaître dans les années fin 80, début 90, vers la Tunisie, beaucoup vers la Roumanie. C'était des fabricants excellents. Il faisait des belles pièces et c'était un produit très propre, très bien. Et malheureusement, on a perdu un petit peu ça. J'ai commencé à travailler énormément avec le Portugal. Et après, j'avais des gens aussi qui travaillaient pour moi en Asie. Mais c'était juste avec des agences.
Beaucoup d'ateliers belges ont même ouvert leur propre atelier à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Belgique? Ils faisaient uniquement les petites collections. Et produisait la quantité à l'étranger, quoi. C'est le prix de revient, c'est ça qui a vraiment fait crouler. C'était impossible, on pouvait pas concurrencer. Donc c'était, donc voilà. Donc c'est le même principe ici. Bon, lui aussi finalement il avait une marque, mais lui était moins, disons, bon, la marque a fait une folie à un moment donné. C'était la marque à avoir, quoi.
Et alors, au niveau de l'atmosphère dans le triangle, parce que dans le triangle, beaucoup de commerçants étaient d'origine juive. Ouais. Tu pouvais dire un petit mot là-dessus.
Mais bon, il y a une bonne ambiance. Hein. C'était bon, c'était. Oui, c'était très particulier, quoi. Bon, on ne sentait pas du tout le côté juif, enfin, pas du tout. Non, 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 parce que c'était. Mais je veux dire, tout le monde se connaissait. Donc, moi, je vais là-bas, c'est pour faire le cafard maintenant. Mais à l'époque, il y a une très bonne ambiance, tout le monde se connaissait. Je dirais, on était concurrents sans être. Enfin, nous, c'était un peu particulier, parce que nous, on n'était pas vraiment concurrents, vu qu'on ne vendait pas la même clientèle. Mais je dirais, c'était, on mangeait, il y en a qui ont ouvert des restaurants, des gens du textile, comme ça, que leur firme ne marchait plus. Ils ont transformé leur magasin, comme les frères Faïga, en restaurant. Alors, la petite histoire, c'est que ce magasin, c'était à nous au départ. Et alors, on se retrouvait le midi dans les restaurants, mais je dirais qu'on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment. Il y avait des restaurants cachers, il y avait Benisti qui a ouvert son restaurant. Donc. Oui, je dirais qu'on se connaissait tous, il y avait une bonne ambiance. Je dirais ce qu'il y avait aussi, le quartier était très vivant, très vivant. Il y avait du monde, surtout le lundi, beaucoup de monde. Et je dirais, oui, ça bougeait, c'était vraiment, on sentait, ça bouillonnait. Enfin, on sentait vraiment un bouillonnement dans le quartier. Bon, après, je dirais, malheureusement, si ça a dégradé, la faute en est, je dirais, à Simonet et aux autres. Il y avait un énorme terrain, j'ai encore parlé avec mon associé, hein. Un énorme terrain à droite, qui était un terrain vague. Quelqu'un voulait acheter pour en faire des parkings. Il a bloqué tout. Jusqu'il n'y a pas longtemps. On parle de. C'est terminé maintenant. Maintenant, hein. Les buildings sont terminés maintenant. Ils ont fait des appartements l'an passé. Vous pouvez imaginer, hein. Ouais, c'est terminé. C'est des appartements. Et malheureusement, il manquait de parking. On étouffait un petit peu. Et alors, puis il y a eu, je dirais, d'autres. La concurrence qui est arrivée, H&M, toutes ces marques qui ont grignoté une partie de la clientèle. Et ça a vraiment, surtout pour ceux qui faisaient des premiers prix, ça a été très dur pour eux, quoi. Mais je crois que voilà, donc c'est un petit peu un changement qu'on ressent maintenant dans un autre domaine avec Internet. Hein. Mais je dirais que la fin du triangle, ça a été d'abord un problème de circulation dans le triangle, et puis l'arrivée de toutes ces chaînes qui ont mangé la clientèle d'une grande partie. Des gens du triangle. Alors, je dirais, nous, chez nous, pas pour venir à moi, mais nous, on était avec des prix plus élevés. Donc, on n'a pas senti H&M ni Zara. On a décidé de se positionner un peu plus haut, prix moyen cher. Et bon, on est passé au travers. On a eu d'autres problèmes, mais qui n'avaient rien à voir avec le triangle, quoi. Mais on est parti il y a 12 ans, on était contents. C'était vraiment. On sentait vraiment un changement. On a quitté un problème de place pour nous. Ça, on n'avait plus de place. Mais voilà, je dirais que, je sais pas ce que tu en penses, tu as vécu autrement, toi. C'est...
Comment ?
Oui, tu as un petit peu sentiment, oui, je sais pas ce que d'autres disent les gens.
C'est tout à fait ça, il y a eu un changement, c'était un quartier qui était très agréable d'ailleurs. Le matin quand on arrivait, on prenait le café avec tout le monde et c'était comme il vous dit, il y avait Benisti, il y avait Arié, il y avait... Mm-hmm. On mangeait oriental, on mangeait ashkénaze, on mangeait séfarade. Il y avait cette ambiance qu'on retrouvait à Paris aussi. Le sentier de Paris, c'était ça aussi. C'était les affaires, mais c'était aussi la communauté juive qui s'est perdue aussi à Paris d'ailleurs. Hein. Il en reste un petit peu, mais c'est plus les marchands de tissus que des fabricants. Aujourd'hui, c'est quasiment 90% des Chinois.